Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France pour cette dernière grande étape de montagne aujourd'hui. Les Pyrénées nous attendent, Otakam également pour cette 18e étape du Tour de France, 143 km 500 et des cols terribles à s'infuser aujourd'hui, dont la dernière ascension, la montée vers Otakam. C'est la 6e fois dans l'histoire du Tour que la grande boucle arrivera tout à l'heure à Otakam, au lieu évidemment où Luc Leblanc s'était imposé, rappelez-vous, en 1994. Pogacar, Vingegaard, lequel des deux sera en jaune ce soir et probablement donc définitivement en jaune sur les routes de ce Tour de France 2022? Eh bien la réponse, nous l'aurons sans doute tout à l'heure, car il restera certain un dernier contre la montre samedi. Mais si Pogacar ne reprend pas 1 minute 30 minimum à Vingegaard, ce sera difficile de remporter un troisième tour consécutif. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont concentrés aujourd'hui pour cette dernière étape de montagne, notamment notre vieux gaulois Cyril Guimard, qui a un magnifique t-shirt. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas mon bouton maintenant, c'est le micro qui est mal placé.
T'as le micro qui penche.
Touchez ma bosse, mon seigneur.
Oui, il va pencher du côté qu'il va tomber, c'est logique. Oui, c'était quoi la question?
C'était pas de question, c'était juste un bonjour. Voilà, c'est comme ça.
Bonjour,
c'est comme
Christophe,
ça qu'on fait dans le monde normalement.
Christophe. Je sais que tu as bien dormi dans une ville où tout le monde dort bien.
Je déteste cette ville.
C'est pour ça qu'on a avancé le départ de 35 minutes.
Quel blasphème.
On a été mettre des cierges aujourd'hui pour les Français, Pierre-Yves.
Ça serait bien, parce que c'est la dernière opportunité.
Ta tante t'a quand même demandé d'aller mettre des cierges.
Oui, oui, tout à fait. Mais je ne crois pas que ça soit pour une victoire française. C'est plus pour mon salut, tu vois.
Mais ça, je crois que ton salut, c'est désormais trop tard. Jérôme Coppel est en pleine forme, lui aussi.
Mais oui, salut Christophe, salut à tous, en pleine forme. Heureusement, dernière étape de montagne.
Ah oui, elle est belle. Il fait beau, il fait très chaud encore une fois aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Les températures sont en train de remonter, on nous annonce 28 degrés. On va tout de suite aller voir ce qui se passe notamment sur la moto RMC avec Arnaud et Marco, le duo inséparable de l'Intégral Tour. Salut les gars!
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Et ben j'ai même 29 degrés au thermomètre de la moto, mais tu l'as dit Christophe, temps magnifique aujourd'hui. On voit tous les sommets autour, alors c'est très légèrement brumeux, tu sais, mais c'est un petit grain dans le ciel qui évidemment c'est pas de la brume, mais tu vois
On lui a coupé le sifflet.
Je voulais leur préciser que dans 25 km, ils seront à Biel. Faudrait pas en couler une du côté de la moto, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà des soucis.
C'est déjà fait, il y a déjà des fuites d'huile.
Les fuites d'huile, c'est dans la descente. Notamment tout à l'heure, dans la descente, comment s'appelle cette deuxième difficulté?
Spandel.
Le col de Spandel, qui est d'ailleurs un col
nouveau,
inédit, sur la route du Tour.
On ça, c'est bien, franchi. On adore les nouveautés.
Ah, ouais. Je sais pas comment ils réussissent, après plus de 100 éditions, à trouver encore des cols inédits, mais bref, c'est pas mal quand même.
Il y en a encore, et je pense que l'année prochaine, avec le départ de Bilbao, on devrait avoir quelques belles petites patates, parce qu'au Pays Basque il y a quand même un certain nombre de cols difficiles, très difficiles. Le souci, c'est qu'au Pays Basque souvent les routes sont vraiment très étroite, donc pour faire passer la route de la course, c'est pas toujours évident.
Tu verras le col de Spandel, hein. La montée et la descente, j'ai été voir sur Google Earth, c'est très très peu, une route très très petite, et vous verrez la descente, ça sera peut-être plus dangereuse que la montée si ça se trouve. Ouais, vraiment compliqué la descente.
Tu n'as jamais franchi ce col donc dans le Tour de France, puisqu'il n'a jamais été utilisé par le
Tour. Ni à l'entraînement d'ailleurs, hein, mais comme je fais très bien mon travail, Christophe, tu sais que je suis un très grand professionnel. Moi hier soir, contrairement à d'autres, j'ai pas été boire de coups, j'étais sur Google Earth, j'ai regardez le parcours, et je peux vous dire que c'est une toute petite route. Mais je ne parlais pas forcément de toi, Christophe. Il n'y a pas que toi, Cyril, dans l'équipe, il y en a d'autres. Voilà, ceux qui dorment en bas du camion.
Ceux qui fêtent leur anniversaire aussi, comme Bruno Fontaine.
Mais qui ne nous invitent pas.
C'est vrai, ils ne nous ont pas invités à boire.
T'as été invité, toi, Christophe?
Non, rien du tout. Aucune invitation, ni aucun Bristol.
Les traîtres.
Terrible. Mais rassurez-vous, Bruno fait la sieste en ce moment, comme d'habitude, entre 14h et 16h. C'est son heure. Et après, il va boire des coups, et après, il va faire la fête tous les soirs. Et de temps en temps, avant midi pour notre premier direct, mais c'est pas tous les jours le cas. Voilà, c'est un magnifique travail. Moi, j'aimerais bien faire ça quand je serai grand. Arnaud, on l'a retrouvé sur la moto RMC.
Non, toujours pas.
Non, Arnaud n'est plus là.
Ah, Marco, ça y est, tu t'es débarrassé de lui, Marco. Bravo, enfin. Il l'a viré de la selle arrière. Bon, Arnaud, t'es là ou non?
Oui, je suis là. J'ai failli faire tomber la moto en plus au passage.
Oula.
Non seulement j'exige des arrêts techniques, mais en plus j'ai failli faire tomber la moto à l'instant. C'est pas une bonne prise d'antenne, ça, du tout pour moi là.
Non.
Ah, tu peux connaître ton jour sans aujourd'hui. Ça arrive à tous les coureurs.
C'est quand
aussi,
une étape s'en manche mal, Arnaud, c'est compliqué pour le reste de la journée normalement. Attention.
Très bien.
J'espère que je serai dans les délais quand même ce soir. Hein.
Ouais. Bon,
mais comment expliquer peut-être qu'il a été invité, lui. Ouais, il a été invité hier soir, apparemment.
Il y en a, tu sais, c'est la mafia toulousaine. Hein, ils s'invitent entre eux. Ouais. Ok, on va faire un point sur la course.
Le sang du Christ avec Bruno, oui.
que le sang, ouais.
Je pense qu'on va se concentrer sur les personnes qui sont aujourd'hui aptes à suivre la course. C'est-à-dire moi. Et vous dire que.
Quel top course? Tu pars sans jingle, toi?
Oui.
Allez, le
jingle, voilà, très bien. 25 secondes d'avance pour un petit groupe. Ils sont 5, Leknessoun, Bisseger, Vermersch, Matthews et De Wulf. 25 secondes d'avance à 114 km de l'arrivée de cette belle étape, dernière étape pyrénéenne. Et le peloton est emmené par les camarades, les équipiers de Simon Geschke, 3 Cofidis, dont Anthony Perez. Évidemment, on parlait des Toulousains. Il y a également Yon Izagir et Pierre-Luc Périchon qui sont à l'avant de ce peloton, puisqu'il y a des points à aller chercher. C'est très important pour l'équipe Cofidis aujourd'hui, la lutte pour le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Il faut aller chercher les derniers points et éventuellement le ramener à Paris, mais pour l'instant il n'est pas dans la bonne échappée. Simon Geschke,
RMC
Intégral Tour.
Et oui, parce que c'est l'une des dernières bagarres que vont se livrer les coureurs du Tour de France aujourd'hui. La lutte pour le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. On va rappeler donc que Simon Geschke est en tête avec 64 points. Vingegaard deuxième avec 52 et Pogacar troisième avec 46. Avec le nombre de points qui sont mis en jeu aujourd'hui, eh bien tout pourrait basculer. Et l'un des deux grands favoris du classement général pourrait aussi revêtir le maillot à pois rouge.
Un petit peu comme ça a été le cas l'année dernière, parce que c'est Tadej Pogacar qui a ramené le maillot à pois à Paris. Aujourd'hui, hors catégorie, le col de l'Aubisque, 20 points, 15 points, 12 points, 10 points, 8, 6, 4, 2, 1. Première catégorie, le col de Spandel, 10 points au premier, et puis hors catégorie, à nouveau avec Otakam. Donc évidemment, le col de l'Aubisque est capital pour Simon Geschke avant que la grande bataille n'ait lieu et que derrière, les autres points soient sans doute récupérés par les leaders du classement général.
Est-ce que vous pensez Geschke capable aujourd'hui de conserver son maillot à pois? C'est la dernière étape de montagne, donc de toute façon, son tour se terminera quasiment ce soir pour lui. Mais bon, je pense qu'il aimerait mieux le terminer avec les pois, Cyril. Le
oui,
très bien, parfait. Vous avez... J'ai rien à dire.
Ben oui, vous avez pas les automatismes à me critiquer en permanence.
Non.
Si.
C'est très bien. Troisième semaine, c'est très bien.
Là, on est en train de se poser une question quand même avec Jérôme. L'échappée est partie. Ils sont 2, 4, 6 à l'avant.
Mais il n'y a que 10 secondes.
Oui. Et pourquoi? Parce que vous avez toute l'équipe Cofidis qui s'est mise à la barre pour revenir sur ce groupe de 6. Je pense que la logique aurait été de laisser partir ce coup, prendre un maximum d'avance pour qu'il n'y ait plus de points à aller chercher au sommet. C'était peut-être la meilleure façon de protéger le maillot.
Oui, mais
à pois.
Oui. Geschke a besoin de points, parce que si tout à l'heure Vingegaard et Pogacar terminent dans un mano à mano à Otakam, ils passeront devant lui. Donc il a besoin encore de points pour assurer son maillot.
Oui, mais s'il n'y a plus de points à prendre là-haut.
Il y en aura pour le final, Cyril.
Mais il y en aura dans les autres. Si l'échappée va au bout,
oui. Okay.
Ils sont que
vous y croyez vraiment, ça, que l'échappée va aller au bout?
Ah, bah, une échappée comme ça, oui, ça peut aller très loin.
Bah là, vu la physionomie, ça paraît compliqué. Plus l'échappée va partir tard, moins elle a de chance d'aller au bout. Ça roule très, très vite. Mais si là, c'est sous l'impulsion de l'équipe Cofidis que cette échappée, elle prend pas de champ. Imaginez que ça rentre, ça contre et que Geschke est de nouveau pas dedans, mais qu'il y a un coureur plus dangereux qui a réussi à se glisser dedans. Parce que pour l'instant, dans l'échappée, le seul qui a des points, enfin le mieux placé, c'est Matthews. Il a 8 points pour l'instant. Il n'y a personne de dangereux. Est-ce que c'est vraiment à eux de faire l'effort maintenant? On verra, mais on est encore loin du col de l'Aubis. Il ne faudrait pas rater la deuxième échappée.
Exactement. Alors, il y a cette bagarre évidemment pour le maillot à pois. Il y a aussi la grande bagarre pour le maillot jaune. On rappelle l'écart. L'écart qui est légèrement redescendu, Pierre-Yves, hier, après les bonifications empochées par Pogacar, qui a remporté donc sa troisième victoire d'étape. 2 minutes 18 tout de même entre les deux grands bonhommes de ce Tour de France, qui vont donc sans doute s'écharper encore aujourd'hui, notamment sur l'arrivée à Otakam. Hein.
J'aime bien parler en secondes. 138 secondes d'écart entre les deux. Comme ça, on a une bonne visualisation. Puisque les minutes, voilà, vous avez juste à compter jusqu'à 138 lentement et vous avez l'écart entre les deux. C'est beaucoup et peu à la fois finalement sur une étape de montagne quand on voit les écarts. Hein, vous regardez l'étape d'hier, le dernier est arrivé à 36 minutes 48. C'était Fabio Jacobsen.
Ça fait mais combien c'est... en secondes ? Je sais pas, t'aimes bien compter c'est... en secondes, 36 minutes 48.
Ça fait 36 fois 60 plus 48. Tu feras ça. Je sais que t'aimes bien les mathématiques.
Ah non, moi je parle pas en secondes, je parle en minutes pour moi.
Hier, juste pour vous dire ce qui se passe parfois pendant les publicités, par exemple, on a expliqué à Jérôme comment calculer le moment où Cyril Guimard aura vécu la moitié des Tours de France, sachant qu'il est à 51 Tours de France, qu'on est à la 109e édition. Voilà, vous faites ce petit calcul chez vous et on vous donnera la réponse dans 2 minutes. Mais pour ce qui est.
Moi je ne pourrais pas vous la donner.
C'est facile, ça sera dans 7 ans. Dans 7 ans, Cyril aura vécu la moitié des Tours de France. C'est beau quand même. Hein.
Ah, magnifique. Ça me fera une belle jambe.
Hein. Tu seras encore là dans 7 ans, mon vieux druide ?
Ah, ça, je n'en sais strictement rien. Mais peut-être qu'en repassant à Lourdes ce soir, je pourrais peut-être brûler un cierge et poser des questions à la Sainte Vierge. Je ne sais pas.
Ça sera pour la 116e édition du Tour. Venez nombreux. Cyril Guimard fêtera la moitié des Tours de France.
Ok, alors, donc, je ne sais plus, on en était. Donc,
on en était sur ce 18, petit écart. Il faut aller chercher
138
du temps.
Secondes entre les deux hommes. Que peut-il se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez et quel scénario a pu échafauder la formation UAE ? Jérôme, on va venir vers toi tout d'abord. Toi qui es un grand stratège, qu'aurais-tu fait aujourd'hui si tu avais été dans la peau de Gianetti, par exemple ?
Eh ben, pour l'instant, rien du tout. J'aurais laissé faire la course, surtout qu'on a dit qu'ils n'ont plus beaucoup d'équipiers. Marc Hirschi n'est pas en forme. Bjerg est déjà lâché. Il n'a plus que McNulty, Pogacar à ses côtés. Pour l'instant, il faut qu'ils attendent. On voit surtout l'équipe Jumbo qui, eux, ont l'air d'avoir mis une stratégie en place, c'est-à-dire de mettre au moins Laporte ou Van Aert à l'avant pour essayer de les faire passer, notamment le col de Lobisque, pour les avoir en point de soutien après. Pogacar, lui, il faut qu'il attende certainement le dernier col vers Otakam pour essayer de faire la différence. Mais vu ce qu'il a montré hier, ça va me paraître compliqué pour Pogacar de déloger Vingegaard. Mais on a vu avec Cyril quand on est monté, Otakam, c'est une pente très irrégulière et si vous n'êtes pas bien, c'est pas forcément les parties les plus raides qui vous font mal, c'est quand ça va se raplatir. Si vous êtes bien en forme, vous arrivez à garder la même puissance et ceux qui sont un peu plus justes, c'est dans les parties plates qu'ils galèrent le plus.
Vingegaard disait hier que l'étape arrivée à Péragude ne lui correspondait pas vraiment. Il a été dépassé par Pogacar dans les derniers mètres de cette étape. Aujourd'hui, en revanche, il dit que les profils des cols et l'arrivée notamment lui conviennent parfaitement. Donc, c'est pour essayer de décourager son adversaire. Ou c'est vraiment le cas ?
Non, je pense que c'est vraiment le cas, c'est ça le pire. Y a un peu des deux, il y a une partie psychologique, mais non, c'est vrai, cette étape-là convient mieux à Vingegaard que celle d'hier. D'ailleurs, on l'a vu, hein, je pense vraiment qu'hier, Vingegaard, il était plus fort que Pogacar, mais Pogacar, ses qualités de puncher et d'explosivité lui ont permis d'aller gagner l'étape. Un peu à l'orgueil, voilà, il veut montrer qu'il est quand même là, que c'est le patron, alors pas le patron du Tour, mais qu'il gagne 3 étapes, etc. Mais l'école d'aujourd'hui convient bien mieux à Vingegaard, c'est sûr, et je ne serais pas surpris de le voir passer à l'attaque.
Donc ça veut dire que le Tour est terminé ce soir, en gros, pour toi ?
Ouais, pour moi, ça m'avait presque qu'on a vu hier. Ça. Autant la semaine dernière, j'étais confiant sur le fait que Pogacar pouvait éventuellement grappiller du temps sur les 3 étapes pyrénéennes. Là, il ne reste plus qu'aujourd'hui. Reprendre 2 minutes 18, ça paraît vraiment très compliqué, surtout après ce qu'a montré Vingegaard hier.
Bon, d'habitude, c'est Cyril Guimard qui nous démoralise en nous cassant le suspense. Là, c'est toi, Jérôme. Je pense que Cyril, en plus, ça va être d'accord avec toi.
Bah, tout à fait. Moi, je pense que le Tour, il est fini depuis le col du Granon.
Ah non, mais... Oh, quel... Non, mais c'est pas possible. Tu pensais qu'il était fini avant, d'ailleurs, avant l'étape du col du Granon.
Oui,
tu pensais
exactement.
Que Pogacar avait tout regagné. Tu vois, il se passe des choses de temps en temps.
Ce qui permet de garder l'espoir,
ouais.
Que je me trompe.
Et là, tu n'as plus d'espoir, en revanche.
Je pense qu'avec ce qu'on a vu hier, ça va être compliqué d'inverser la vapeur.
En tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas attendre la montée finale. C'est dans Spandel qu'il faut attaquer.
Pour Pogacar,
oui,
bien sûr, s'il veut reprendre du temps, il faudrait qu'il passe à l'offensive à Spandel. Mais pas comme il a fait hier, juste à 150 mètres du sommet de l'avant-dernier grimpeur. Il faudrait essayer bien plus loin. Est-ce qu'il va faire tapis Pogacar en disant « Bon, deuxième du tour, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà gagné deux fois. J'essaye vraiment de retourner le tour et de faire craquer Vingegaard comme il m'a fait au Granon. » Si c'est le cas, il faudra qu'il attaque dans Spandel, mais au bout de 2-3 km de montée, déjà pour éliminer tous ses coéquipiers, le mettre dans les cordes, et après ça sera un mano à mano dans la montée sur Otakam. Est-ce qu'il en a les moyens? Ça, c'est une autre question.
Voilà, c'est la seule interrogation, parce qu'il le dit beaucoup, il parle de fun, il est joueur, il aime ça, il l'a dit pendant la première semaine. Pendant la deuxième semaine, on a senti que c'était déjà un petit peu moins le cas, mais quand même, on l'imagine mal, ne pas placer des attaques aujourd'hui et tenter le tout pour le tout, essayer de s'amuser dans la descente de Spandel, à mettre son adversaire en difficulté.
C'était fun, on va essayer de s'amuser. Quand on regardait le visage de Vingegaard et de Pogacar hier soir, il y en avait un qui avait un vrai sourire détendu, et l'autre, il était plus fun du tout, et il n'avait plus le sentiment
fumé
de s'amuser. Je pense qu'il était plutôt un petit peu enfumé hier soir.
En revanche, on continue de s'amuser dans le peloton entre Pogacar et Geraint Thomas. Raconte-nous, les deux, donc le leader du classement général et le troisième, s'envoyer quelques petits tweets pour rigoler. Raconte-nous un peu, Jérôme.
Ouais, c'est ça. Il communique sur Twitter par tweet interposé en se taguant. Vous savez, vous pouvez mettre le arrobase et le nom de la personne pour que ça s'affiche sur son profil. Mais eux s'amusent à taguer des personnes qui ont le même nom, mais sans que ça soit la vraie personne. Donc, c'est Geraint Thomas en premier qui a tagué un Tadej Pogacar qui n'a rien à voir avec le vrai. Et Pogacar a répondu en disant merci, Jay, le surnom de Geraint Thomas. Pareil avec une personne qui s'appelle Geraint Thomas qui est habillée en chevalier, qui n'a rien à voir avec le vrai Geraint Thomas. Et voilà, c'est ça qui est cool. C'est vrai que depuis cette année, ça devait arriver les autres années, je faisais peut-être moins attention, mais les coureurs entre eux maintenant sont assez fun sur les réseaux sociaux. On a vu Bettiol qui a dit à Philipsen, notamment quand il a levé les bras derrière Vingegaard, qu'il était content de lui passer le flambeau, parce que lui avait fait la même chose au Tour de Suisse. Il avait levé les bras alors que quelqu'un avait déjà passé la ligne d'arrivée en tête. Voilà, maintenant il y a des petites blagues sur les réseaux sociaux et ça, c'est très sympa.
Ils s'amusent, les coureurs du Tour de France, mais ils vont pas s'amuser longtemps aujourd'hui dans cette 18e étape où les trois difficultés sont rassemblées sur quelques kilomètres seulement, environ quoi, une cinquantaine de kilomètres avec les trois cols.
Oui, un petit peu plus 75 kilomètres à peu près, les 75 derniers kilomètres avec l'Aubisque, Spandel et puis Otakam. Ça bouge encore à l'avant avec un garçon vraiment qui est au top sur ce Tour de France, et pourtant il a chuté. C'est le jeune Jorgensen qui est reparti à l'attaque et qui fait bouger tout le monde. Et là, ça pourrait être quand même un gros mouvement. J'essaye de voir si Simon Geschke a bougé et se place dans ce groupe, peut-être tout à l'arrière là.
Il était en chasse-patate. Je ne sais pas s'il a réussi à recoller ce groupe. Il est sorti. Bah voilà, il va rentrer. Il est toujours à contre-temps. Il a quelques mètres de retard, mais il a bien senti que ce coup-là pouvait aller loin.
C'est une bataille pour aller décrocher le maillot de meilleur grimpeur. Et Simon Geschke livre tout ce qu'il a encore dans les sacoches pour cette 18e étape. Pour lui, le Tour de France s'achèvera ce soir. Évidemment, il faudra rallier Paris. Mais s'il a le maillot à poids sur les épaules, son Tour de France sera évidemment parfaitement réussi. 14h22 sur RMC. On fait une première pause dans cette 18e étape et on revient dans un instant. Les montagnes Pyrénées ne vont pas tarder à se présenter sous la roue des coureurs de ce Tour de France. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h23 sur RMC. Bon après-midi, évidemment, si vous êtes avec nous, si vous nous accompagnez depuis le début de ce Tour de France. On est là jusqu'à dimanche. Ensuite, on ferme les portes, donc profitez-en. Il ne reste plus que 4 étapes, dont celle d'aujourd'hui, 18e étape. La dernière occasion pour... que se passe-t-il à l'arrière? Un coureur de la formation DSM qui est arrêté. Problème mécanique, a priori.
Petit souci mécanique, pas d'inquiétude, pas de stress dans l'équipe DSM. On précise que ce n'est pas Romain Bardet. En revanche, devant, il y a de l'inquiétude pour l'équipe Cofidis, parce que Simon Geschke n'est pas dans cette échappée et il a son adversaire Giulio Ciccone qui s'est glissé à l'avant, et ils sont quand même un bon nombre. Je vais vous donner exactement, ils sont 16 devant, 16 avec des garçons comme Dani Martinez, Mohoric, Dainese, Ciccone, je vous l'ai dit, Luc Rowe est présent. On a des Français aussi, Amaury Capiotté, Franck Bonamour, Tige Benot, Bettiol, Groenewegen, qu'est-ce que tu fais là mon bon Dylan, tu vas partir pour une galère. toute la journée. Dylan Groenewegen, le sprinter, qui se dit bon, si je me mets devant, à la rigueur, j'aurais peut-être moins de mal à être à l'arrière tout à l'heure dans le groupe Eto. 12 secondes d'avance pour ce groupe, les Cofidis qui chassent.
Les Cofidis qui chassent pour évidemment remettre Simon Geschke, mais qui a l'air un peu fatigué aujourd'hui, Jérôme. Évidemment, il a beaucoup donné, hein, parce qu'aller chercher des points comme ça quasiment tous les jours depuis quelques jours, eh bien c'est pas facile. On finit par il laisser des forces.
Il a beaucoup donné, mais c'est surtout aujourd'hui là qu'il donne beaucoup. Il a fait rouler son équipe. Il est parti en compte tout seul derrière l'échappée qui est en train de se créer. Maintenant, c'est son équipe qui fait l'effort, bien sûr, comme l'a dit Pierre-Yves, parce qu'il y a Chicone à l'avant qui peut lui ravir son maillot de meilleur grimpeur. Alors pour autant les autres étapes, il a couru très juste. Simon Geschke, aujourd'hui, il est un peu à contre-temps. Faut qu'il récupère un petit peu. Faut que ses coéquipiers arrivent à ramener le peloton sur ce gros groupe. Faut surtout pas laisser partir Chicone. Et faudra pas qu'il rate la suivante. Mais là, faut qu'il se refasse un peu la cerise, Geschke, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts depuis le départ de l'étape.
Il est aidé par Pierre-Luc Périchon, par Yon Izaguirre, par Anthony Perez. Et il vient, lui, en quatrième position. Mais l'écart est en train d'augmenter. Et dans l'échappée, on ne s'entend pas très bien. Pour le moment, ça grogne un petit peu sur l'organisation générale. Et attention, il n'y a que 10 secondes, donc c'est peut-être pas encore la bonne.
Ouais, ça va être compliqué de faire la bonne échappée, de partir dans la bonne échappée aujourd'hui. Cyril, c'est la même situation hein, que ce qui s'est passé hier.
Valentin Madouas qui est en train de sortir et deux coureurs de l'équipe Cofidis, donc c'est désorganisé pour ce qui est de l'échappée, mais également au niveau du peloton. Là, il y a un autre groupe qui se forme avec des coureurs de l'équipe Cofidis, avec Florian Sénéchal également qui se glisse là, peut-être Boké Mollema également, mais résultat, Simon Geschke n'est pas là. Donc les Cofidis vont finalement essayer d'aller chercher les points eux-mêmes pour empêcher que d'autres les prennent, mais c'est pas gagné quand même.
Non, c'est pas gagné. C'est Tony Galopin pour l'équipe Trek Segafredo qui s'est glissé là. Il faut vraiment que Simon Geschke arrive à se glisser dans ce coup, parce que ça va pas tarder à faire rideau si ça continue comme ça. Alors ça relance encore derrière. Il y a bien sûr des équipes qui sont pas représentées à l'avant ou qui n'ont pas mis le bon pion. On pense à l'équipe Bike Exchange par exemple. Si elles visent l'étape, c'est pas avec Groenewegen aujourd'hui qu'elles vont y arriver. Donc une équipe comme ça pourrait relancer. Voilà, il y a encore une grosse castagne hein, sur ce début d'étape. Il n'y a pas eu une échappée qui est partie facilement ces derniers jours.
Est-ce que Simon Geschke est à l'avant-garde du peloton?
Non,
je le vois pas. Hein.
Non, il essaye de remonter. Il est en 20e position à peu près, mais pour l'instant, il a du mal. Alors c'est pas perdu pour lui, parce qu'il a encore des équipiers qui font le boulot pour essayer de revenir. Là, il y a trois groupes hein, maintenant. Le groupe de tête qu'on vous a décrit tout à l'heure avec notamment Franck Bonnabourg et Amaury Capiot. On demande de tourner devant. Il y a un petit groupe de contre, on le disait, avec Valentin Madouas. Et puis derrière, le peloton qui se trouve exactement à une vingtaine de secondes.
Oui, alors pour le classement par points, Geschke court à l'envers et l'équipe Cofidis court à l'envers depuis le départ. Dans la mesure où il y avait un coup qui était parti, qui était intéressant puisqu'ils étaient 6 et qu'il y avait quand même du beau monde dans ce groupe, il fallait le laisser partir plutôt que de se mettre à la barre toute l'équipe. C'est revenu, quand c'est ressorti, bien, il n'y avait personne, Geschke a été obligé de sortir seul pour essayer de revenir sur le coup. Il n'a pas pu, donc il a buté, donc aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, ses meilleures cartouches, il les a dépensées, et dans la montée de l'obisque, à mon avis, quoi qu'il arrive, il pourra plus aller chercher les points là-haut.
Et les deux groupes se sont reconstitués à l'avant, alors que Thibaut Pinot est en train de sortir à son tour du peloton, de tenter de s'extraire de ce peloton. Il y en a encore un peu partout, mais il est pris en chasse par notamment Wout van Aert et le peloton qui est en file indienne. Ça castagne depuis le départ de cette étape, hein, on rappelle, il y a quasiment une heure maintenant.
Il y a une heure, il y avait combien de kilomètres, Christophe, au total sur cette étape?
143.
Eh bien, on est à 100 km tout rond. On a la moyenne de cette première heure, 43 km/h. Et c'est pas tout plat, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. 23 secondes d'avance pour ce gros groupe à l'avant qui va avoir du mal à s'organiser. Résultat, eh bien, certains décident de prendre les choses en main et ne pas s'occuper de ceux qui sont derrière, à l'image de Dani Martinez ou de Riabouchi.
Ok, alors la moto, me dit-on, est en train de chasser le président. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, le président de la République serait-il sur les routes du jour aujourd'hui? Non, pas le président.
Oui, il paraît.
Est-ce que tu as vu?
Je sais pas si vous m'entendez.
Oui, on t'entend, Arnaud. On t'entend.
Je sais pas. Non, je l'ai pas encore vu, mais voilà, je suis avec Marco et sa moto. Son jeu préféré, c'est de trouver le président caché dans la montagne tous les ans. Le président Macron aime bien venir se cacher dans les Pyrénées. Donc voilà, on va essayer de on va essayer de le chasser, mieux que ça même, de lui tendre le micro, comme on avait réussi à le faire.
Ah ouais, vous aviez réussi
il y a trois ans, à quelques kilomètres. Et oui, c'était en bas du Tourmalet. C'était le jour où Thibaut Pinot avait gagné au Tourmalet, au passage, voilà, avec Julien Alaphilippe qui était en jaune. Oh là, les Français étaient extraordinaires ce jour-là. Et c'était d'ailleurs trois ans. Non, c'était pas trois ans jour pour jour. Je crois pas. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on chasse le président et on, voilà, si la chasse est bonne, on vous le ramène.
Ok, il y a plein de chefs d'État, puisque le prince Albert de Monaco est également présent, a priori, sur l'étape du jour. C'est en tout cas ce qui nous avait été annoncé ce matin. Et puis, il y a le président de la République de Juillet, mon cher Pierre-Yves.
Bien sûr, Christian Prudhomme, forcément. Donc, il y a trois hommes d'État actuellement.
Et il va mettre Macron et le prince Albert dans la même voiture ? Tous les trois, ils vont être ?
Je sais pas.
Oh là là.
Ben, y a la place.
En tout cas, la sécurité s'est sérieusement renforcée.
On pensait que c'était pour nous ce matin.
Non, même
et
pas.
Pour Cyril, mais non, en fait, c'est pas pour nous, apparemment.
Allez, 99 km de l'arrivée avec donc une situation qui est en train d'évoluer puisque le groupe de tête est en train de creuser les écarts désormais, Pierre-Yves.
Oui, 35 secondes et Wout Van Aert qui part en chasse. Lui aussi, il voit que ça va pas assez vite. Bizarre, Jonas Rutsch prend sa roue. En revanche, Simon Geschke n'y arrive pas et ce sont les coureurs de l'équipe AG2R qui vont essayer de revenir. On fera la liste de tous les garçons devant parce qu'ils sont très nombreux. Je vais écouter Radio Tour dans un instant.
Ok, on va retourner sur la moto peut-être si Arnaud est en place pour sa carte postale, parce que je pense que ça va flinguer assez rapidement tout à l'heure dans le premier col. Donc on va tout de suite se consacrer à la carte postale d'Arnaud Souk.
RMC, la carte postale de l'Intégral Tour.
Arnaud, c'est à toi.
Eh bien, puisque je t'en parlais, les coureurs du Tour donc reçoivent ce jeudi la visite du chef de l'État, Emmanuel Macron, la venue du président de la République sur la route du Tour. C'est une grande tradition de la 5e République. Dès 1960, le général de Gaulle rend visite à la caravane, se mêlant à la foule dans son fief de Colombey, les deux églises. Il va être très vite remarqué, ce qui va d'ailleurs provoquer l'arrêt du peloton qui va le saluer respectueusement. Son successeur, Georges Pompidou, snobera, lui, le peloton, mais au début des années 70, au milieu des années 70, plutôt en 1975, le chef de l'État fera son retour sur la route du Tour en la personne de Valéry Giscard d'Estaing. Vous en souvenez peut-être, messieurs, le 20 juillet 75, pour le final sur les Champs-Élysées, le président remettra même le maillot jaune au vainqueur de l'édition, le français Bernard Thévenet. 10 ans plus tard, c'est au tour de Mitterrand de se rendre sur la route du Tour, le 10 juillet 85. Le chef de l'État est même dans la foule pour le passage du peloton. Il prend en photo, voilà, les coureurs, comme l'aurait fait n'importe quel passionné anonyme. Son successeur Chirac, lui aussi, sera de la fête, par exemple en 1998 à Saran, en Corrèze, ville dont son épouse Bernadette est conseillère municipale. Il signe quelques autographes, salue les coureurs et surtout répond à la polémique qui vient d'éclater et qui va ébranler le monde du cyclisme, l'affaire Festina. Il se murmure même quelques années après que c'est lui qui convaincra définitivement Richard Virenque et son équipe de se retirer de la grande boucle. 2007, plus de 2 mois après son élection, Nicolas Sarkozy, lui aussi, viendra par exemple à Briançon sur la route du Tour. Il avouera supporter Christophe Moreau, que l'on connaît bien désormais dans l'intégral Tour. Et puis donc Macron le fera aussi du temps de sa présidence, ainsi que le président Hollande, qui assistera notamment en 2012 à une victoire de Mark Cavendish et un spectaculaire accident dans le peloton, causé, peut-être vous vous en souvenez aussi, par un chien en liberté sur la route.
RMC Intégral Tour.
La visite des présidents de la République est une tradition donc dans la 5e République. On vient voir le Tour de France, on vient voir la France en vacances, la France sur les routes, et encourager évidemment les coureurs français qui, on vous le rappelle, n'ont toujours pas remporté la moindre victoire depuis le début de ce Tour de France. Peut-être aujourd'hui, sait-on jamais. Est-ce que vous y croyez, messieurs? Je vous pose la question. C'est un rituel depuis quelques jours maintenant. Cyril?
Alors, conservons les rituels. Cette échappée qui est partie, qui n'est pas encore faite, qu'elle a 28 secondes et ça ressort en permanence à l'arrière, on est à moins de 20 km du départ, du pied du col de l'Aubisque, et on a dans ce groupe quelques coureurs qui ont peut-être des qualités qui pourraient permettre, si ces échappées est au bout, d'aller peut-être chercher la gagne.
Ouais, oui, sait-on jamais, on peut se prendre à rêver pour nos coureurs français. On rappelle que Bardet, il y a quelques années, Pierre-Yves s'était imposé lors de l'avant-dernière étape du Tour de France, alors qu'on était dans la même situation que cette année 2022. On va rappeler donc les noms justement des principaux garçons. C'est pas facile parce que ça bouge dans tous les sens.
Oui, si. Donc,
quelques noms à nous donner tout de même.
Oui, j'en ai quelques-uns. Ils sont 35 devant. Ah oui. C'est la plus grosse échappée depuis le début du Tour. Mais je vais quand même vous dire qu'il y a Wout van Aert, qu'il y a Dylan Van Baarle, il y a des Français comme Benoît Cosnefroy. On a aperçu Valentin Madouas, Benjamin Thomas, passé tout près d'une victoire d'étape, on le rappelle. Amaury Capiot également de Arkea Samsic. Giulio Ciccone, Tony Galopin est là aussi pour les Français. Mathieu Burgodo, Franck Bonamour, Dylan Groenewegen, Michael Woods est présent. Exactement, voilà, Dylan Teuns. Enfin, ils sont très nombreux.
Moritz aussi qui est là.
Moritz,
notre champion de France, Florian Sénéchal.
Florian Sénéchal, Riabouchenko. Voilà, ils sont vraiment très nombreux.
Young Girls, ah, bah, Polite,
Florian Sénéchal est distancé à l'instant.
Ah,
voilà.
Je pense qu'il y a plus de monde dans l'échappée que dans le groupe maillot jaune derrière, parce que ça pète de partout dans le groupe Vingegaard, Pogacar à l'arrière. Ça roule très très vite hein, depuis le départ de l'étape. On est à 52 de moyenne.
Bah, je peux vous dire par exemple, il y a trois garçons qui sont en grande difficulté. Déjà depuis le début, c'est Bjerg, équipier de Pogacar, qui est à 3 minutes 27.
Là, 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 là.
Oh, la chute idiote encore entre une moto presse et une voiture de UAE. Il est fumasse, le coureur de l'équipe Bike Exchange, parce que effectivement, on aurait dû lui laisser la place à Jack Bauer sur ce coup-là. Jack Bauer qui chute, alors c'est pas trop grave. Il y a eu une autre chute également devant d'un coureur de l'équipe DSM. Mais vraiment, on lui ferme la porte là, alors que la voiture UAE.
On l'écoute. Non, c'est la moto, hein.
C'est la moto qui le coince. C'est la moto qui le coince dans ce rétrécissement là sur la route. Oui, oui. La voiture UAE les... en fait était arrêtée. Elle stoppe et la moto
se retrouve bloquée derrière et sur le rétrécissement. Effectivement, ça ne passe pas.
C'est pas fait trop mal heureusement, mais là franchement,
il était furieux. Hein,
la priorité était pas au coureur.
C'est un sanguin en plus, hein, Jack Bauer. Heureusement que la moto s'est pas arrêtée, parce que je pense qu'il lui mettait une baigne sinon. C'est vraiment un gros sanguin. Et là, on peut comprendre son énervement. Il y avait un rétrécissement. La voiture devant a dû même toucher un coureur de DSM. Je me demande si c'est pas Nils Seckhoff qui a été percuté par la voiture, qui est tombé aussi. Voilà, là il y avait des voitures, des motos, des vélos, ça pouvait pas passer pour tout le monde. On rappelle que la route se partage normalement, et là c'est priorité aux coureurs.
Il ne se partage pas sur le Tour de France, la priorité aux coureurs. On en parlera d'ailleurs de cette opération demain d'ailleurs, avec notre invité qui viendra. On revoit la scène au ralenti. Effectivement, la moto presse sur le côté
gauche. En fait, il y a une autre chute avec une autre moto devant.
Même exactement la même scène devant avec incroyable. Un coureur de DSM.
Incroyable. Deux chutes avec deux motos là qui sont responsables. En tout cas pour la première, je ne sais pas, mais
il y a un beau rétrécissement aussi.
Hein. Oui, mais il avait été annoncé.
Le rétrécissement va être responsable des différents mouvements, moto et voiture, qui ont provoqué effectivement la chute de deux coureurs.
Jack Bauer qui n'aura pas 24 heures chrono pour remonter dans le peloton maintenant, et le coureur de l'équipe DSM, tu l'as identifié, Jérôme, il est actuellement à la voiture médicale.
Et oui, parce que c'est tombé fort sur le côté droit avec le coude qui est ensanglanté de Nils Seckhoff, le coureur néerlandais de la formation DSM, équipier de Romain Bardet. Attention donc aujourd'hui, une nouvelle fois très attentif. Il y a beaucoup de véhicules en course. On a vu tout à l'heure dans la montée, ça va être chaud également, parce que la route est très étroite dans cette montée d'Otakam. Jérôme, et tout à l'heure, ça risque là aussi de coincer un peu. Tu regardes quoi là?
Je regarde Nils Seckhoff avec le médecin du Tour. Ils essayent de lui mettre une bande au bras pour tenir le pansement, mais il lui demande de lâcher la voiture pour lui enfiler le filet. Mais quand vous roulez à 50 ou 60 à l'heure et vous accrochez, ça va, mais dès que vous lâchez, bien sûr la vitesse est différente, et j'ai cru qu'il allait passer sous la voiture, Nils Seckhoff.
On va peut-être arrêter avec les accidents là en ce début d'étape.
Il y a un problème que j'ai relevé d'ailleurs à chaque fois, c'est que quand un coureur est à la voiture médicale et qu'il se fait soigner, comme par hasard la voiture du médecin laisse partir devant, elle roule à moitié moins vite que le peloton, ce qui fait que vous étiez à 20 secondes du peloton. Quand vous lâchez la voiture après avoir été soigné, vous êtes à une minute. Demander au chauffeur quand même de la voiture de.
Ouais, mais il faut aussi soigner le
non,
coureur.
On peut soigner à 100 km/h.
On n'est pas à 100 km/h. Là, il est à 25. La voiture médecin, elle doit rouler à la même vitesse que le peloton.
Ok,
c'est peut-être le subconscient chauffeur en fait, qui se dit il faut pas que je roule trop vite.
Mais non, c'est pas le subconscient. Vous mettez un chauffeur qui sait rouler.
Ah, ça y est, on s'était pas fâché aujourd'hui encore.
Depuis 2-3 jours, ça flingue. Hein. Cyril a des comptes à régler avec un peu tout le monde dans la caravane.
Vous savez,
je sais pas si on va lui filer une accrède la saison prochaine.
Plus d'une minute. Mais c'est pas la première fois. L'autre jour, ça a été la même chose. Et après, le coureur est venu de s'abriter derrière la voiture de son directeur sportif.
Et il prend une amende.
Et il se prend une prune.
Ah, c'est peut-être un coup de l'UCI, ça. Hein.
Peut-être, oui.
Ouais.
Faut qu'on fasse notre enquête. Bah,
hein. On va faire notre enquête.
Ah non, le médecin, il a qu'à suivre tranquillement. Attendez, un coureur, il est capable d'être accroché à la voiture à 40 à l'heure sans tomber. Hein. D'ailleurs, des fois, il s'accroche plus vite à des vitesses bien plus importantes à celles de son directeur sportif.
Ah, ça arrive, ça, Cyril ?
Oui, ça arrive. À mon époque, non.
Ça ne touchait pas à
la mienne, oui.
Ouais. Bon, allez, on va faire un nouveau point de la situation en course. On est à 92 km de l'arrivée de cette étape, donc à une toute petite vingtaine, même pas 20 km du pied de l'Aubisque.
10,
ça va être très exactement. Donc ce sera au kilomètre à 82 km de l'arrivée. Le top course, tout de suite avec Pierre-Yves.
30 secondes d'avance pour 33 coureurs, même si certains sont encore en contre, à l'image d'Antoine Duchesne qui essaye de sortir du peloton. 30 secondes d'avance à 92 km de l'arrivée pour 33 garçons qui tentent d'aller à l'assaut du col de l'Aubisque, avec notamment Wout Van Aert, Dylan Van Baarle, des Français aussi, Valentin Madouas ou Benjamin Thomas. On vous redonnera leur identité tout à l'heure, parce que ça risque de bouger encore. Le peloton est emmené par les coureurs de l'équipe Quick Step. Ça veut dire que Jakobsen est peut-être toujours dans ce peloton. Pour l'instant, on vérifiera ça. Lui qui a été sauvé de 15 secondes hier, 15 secondes de plus, et il était hors délai. Valentin Madouas et Bob Jungels sont les mieux classés au général dans ce groupe échappé. Le sprint de Larens est dans 6 km 700.
Il est 14h40 sur RMC. C'est l'intégral Tour de France revient dans quelques instants. La bagarre et les premiers cols de cette dernière étape des Pyrénées vont bientôt débarquer, avec le col d'Aubisque, première apéritif en quelque sorte, mise en bouche, mais c'est une sacrée mise en bouche qui attend les coureurs dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h42 sur la route du Tour de France pour cette 18e étape en direction de Otacam. Dernière étape pyrénéenne, dernière étape de montagne ce soir. Eh bien, on connaîtra peut-être quasiment à coup sûr le vainqueur de ce Tour de France 2022, à moins que Pogacar ne parvienne à reprendre 1 minute 30 à Vingegaard et que tout se décide dans le dernier grand rendez-vous après-demain dans le contre-la-montre de Rocamadour, 40 km. S'il ne reprend pas 1 minute 30, je pense que Vingegaard conservera définitivement ce maillot jaune. 88 km de l'arrivée. Pierre-Yves, tu voulais nous dire quelque chose?
Une première contrariété pour le maillot jaune Jonas Vingegaard aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres aujourd'hui. Il vient d'aller voir les coureurs de l'équipe Quick-Step qui roulent à l'avant du peloton à 22 secondes de l'échappée. Ils se sont mis en ordre de marche et ils sont relayés évidemment par les Cofidis. Mais Vingegaard est allé voir les Quick-Step en leur disant: mais pourquoi vous roulez? Et pourquoi roule-t-il, Jérôme? On a du mal à comprendre.
C'est une bonne question. Alors, ils ont personne dans l'échappée, ça c'est un fait. Est-ce qu'ils roulent pour mettre quelqu'un dans l'échappée, mais ils n'ont pas de grimpeur?
Le micro.
Oui, ils avaient quelqu'un dans l'échappée, c'est Néchal, mais qui a sauté. Donc voilà, pourquoi ils roulent, je ne sais pas, ça c'est une bonne question. Et c'est vrai que ça a énervé Vingegaard, ça l'arrange bien cette échappée si elle pouvait prendre du champ à l'avant. Et du coup, ça a donné des petites idées à Cofidis qui vont venir les aider, bien sûr, pour essayer de remettre Geschke dans cette échappée. C'est pas impossible qu'au pied de l'Aubisque, tout soit regroupé et qu'on refasse un point zéro au pied de ce premier col de la journée. Là c'est tout bénef pour Cofidis, ils leur ont mis un beau coup de main, maintenant c'est eux qui roulent. Geschke a peut-être pas tout perdu finalement.
Est-ce qu'il peut y avoir des alliances entre certaines équipes, quand on voit par exemple que la formation UAE est réduite à 4 coureurs, Cyril? Est-ce qu'on peut essayer, je sais pas moi, de manière un peu frauduleuse de s'arranger avec d'autres formations? Ça arrivait à ton époque, ça?
Non, mais il faut savoir que dans l'échappée, il y a entente, puisque tous les coureurs se relaient.
Dans une échappée, oui.
Donc pour revenir sur une échappée, la plupart du temps, il y a une entente entre plusieurs équipes pour revenir sur l'échappée, ce qui est logique, puisque l'échappée collabore. Donc il y a entente permanente du départ à l'arrivée qui se font en fonction des différentes formations.
Et ça se fait de manière informelle, comme ça, en fonction des
enjeux. Regardez les équipes de sprinters, quand elles commencent à rouler, elles vont demander à une autre est-ce que tu mets quelqu'un ? Est-ce que tu mets quelqu'un ?
Oui, ça... Mais là, Quickstep, c'est pour essayer de faire péter Jacobsen qui font ça, tu crois ?
Je pense, oui, vraisemblablement. Mais même Cofidis, attendez, il y a 30 coureurs devant.
Oui, mais il y a Chicone.
Alors, Chicone, il ne va pas passer en tête tout l'école ?
Bah non, mais il n'a pas besoin.
Il avait besoin d'en passer un seulement. Hein. Ah c'est un hors catégorie, Cyril. Si tu connais pas sans tête à l'obis, qui prend le maillot à poids. Ben oui, d'accord. Enfin, ils essayent de rattraper le coup là. Ils sont à 22 secondes derrière.
C'est trop tard.
Et tu penses pas qu'ils vont prendre les 22 secondes
3-4 km du pied du col.
Mais oui, mais si s'ils arrivent au pied du col à une vingtaine de secondes, Geschke va essayer de faire le jump pour.
Non, il est sorti tout à l'heure. Il a pété.
Je te dis pas qu'il va y arriver. Je te dis qu'il va tenter de faire le jump pour rentrer. C'est quand même.
Mais il n'y arrivera pas.
La tentation est un vilain défaut.
Ben voilà, tu verras. On en reparle dans 5-6 km quand on va arriver au pied. Geschke va tenter de rejoindre le groupe d'échappée.
Cyril est marqué par la ville de départ aujourd'hui. Il n'aura que des messages de ce type aujourd'hui. La tentation est un vilain défaut, Christophe.
Je ne réponds plus à la tentation. Je résiste à la tentation. Je ne suis pas allé chercher de sandwich comme vous. Il est allé chercher un sandwich tout à l'heure. Pierre-Yves, il est revenu 40 minutes après. On aurait dit ton grand-père tellement il était en sueur.
Il a
attrapé un coup de soleil sur son magnifique front. Ça a été
excellente cette petite vent fraîche. Ouais. Et je ne sais pas si les coureurs vont pouvoir avoir le temps de prendre une musette parce que ça bagarre tellement. Alors il n'y aura peut-être pas de vent fraîche dans la musette, mais il faudra qu'il y ait un peu de glucides pour refaire un peu les niveaux. 22 secondes d'écart entre les échappés et le peloton. Sa bagarre ferme. Wout Van Aert à l'avant. Ils sont très très nombreux. On vous le rappelle, plus d'une trentaine de coureurs.
Et Mika nous dit sur le RMC Live, et voilà, le druide est en pétard. Hier, il s'est fait Madio et Pino. Aujourd'hui, le médecin du Tour, c'est à cause de ces oiseaux qui lui ont bouffé ses tomates. Et on rappelle, il n'y a pas de tomates puisque les oiseaux ont attaqué les tomates de Cyril à guerre. Magnifique petit tweet qui me régale. 85 km de l'arrivée, la moto RMC, lui, il chasse le président et peut-être aussi les échappés, Arnaud, sur la moto RMC.
Et surtout le président, hein, mais c'est comme le Migou, il est bien caché quelque part dans sa caverne, dans la montagne. Donc voilà, on a même commencé à prendre les premiers lacets du col d'Aubisque pour essayer de le trouver, mais pour l'instant, eh bien, il est introuvable. Voilà, le président. Mais on va quand même essayer de chercher.
On rappelle que a priori, c'est ce qui se passe les années précédentes. Il arrive en hélicoptère et puis Christian Prudhomme l'attend à un endroit de la course. Et il monte dans la voiture du directeur de course, c'est ça, hein ?
Et il monte dans la voiture effectivement du directeur de course et il assiste à l'étape donc à bord de cette voiture du directeur de course. Et puis après il y a une petite prise de parole aussi une fois l'arrivée de l'étape effectuée. Donc ça sera certainement du côté d'Otakam tout à l'heure, prise de parole. L'année dernière, je me souviens par exemple au col de Portée, il avait salué, je sais plus si c'était au col de Portée, si il me semble que c'était au col de Portée, je suis pas certain, il avait notamment salué les pompiers, voilà, les pompiers qui œuvrent aussi, qui participent au bon déroulement de ce Tour de France. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les pompiers, ça me fait penser que hier, les pompiers, on peut les remercier parce qu'ils ont évité un arrêt de course entre le col d'Aspin et la Hourcade d'Ancizan. J'ai pas trouvé bon de vous en parler hier parce que la course se déroulait de manière tellement rapide que c'était pas vraiment bienvenu. Mais à un moment, il y a eu un incendie qui est parti au pied de la Hourcade d'Ancizan au niveau de Payol. Et heureusement qu'il y avait un camion de pompiers qui a pu venir rapidement pour éteindre les flammes parce que ça aurait risqué de bloquer la route.
Eh ben ouais, ils sont là, les pompiers, les gendarmes également, qui assurent la sécurité autour de ce Tour de France. 83 km de l'arrivée, alors que le groupe de tête possède quoi ? Une grosse vingtaine de secondes désormais d'avance.
Oui, pas grand-chose. Le sprint intermédiaire vient d'avoir lieu à Larens. Moric a essayé d'aller le discuter à Wout Van Aert. Niels Polit était aussi dans cette histoire-là, et le maillot vert qui a repris les choses en main. Mais surtout, on est à 1 km désormais du pied de l'Aubisque. Ça veut dire que tout se joue là et notamment derrière pour le peloton emmené par les hommes de Simon Geschke. S'ils ne reviennent pas maintenant, ça va être très très compliqué et là on va avoir de l'élimination évidemment dans ce gros groupe parce que tout le monde ne va pas réussir à suivre. Je pense par exemple à un certain Dylan Groenewegen.
Oui, évidemment, Dylan Groenewegen qui attaque tous les jours en début d'étape de montagne. Jérôme, quand même surprenant, qu'est-ce qui lui prend ?
C'est mieux d'avoir un coup d'avance d'avance qu'un coup de retard. Il sait que s'il est devant, bah, il a un peu d'avance sur le peloton. Il va se faire attraper par le peloton, lâcher par le peloton et il retombera dans le groupe Eto. Et c'est aussi pour aider son équipe, bien sûr. Mais quand même, faut souligner la bonne condition physique de Groenewegen, parce qu'il faut être capable d'aller dans les coups quand ça roule à plus de 50 de moyenne. Rappelez-vous au Dauphiné, hein, juste avant le tour, il était dans les premiers lâchés sur le Dauphiné. On s'est dit, qu'est-ce qu'il va aller faire sur le tour à la première étape de montagne? Il va être hors délai. Et bah, pas du tout. La condition physique de Groenewegen est très bonne. Et on rappelle que s'il rentre dans les délais aujourd'hui, il a deux possibilités de gagner encore une étape à Cahors. Exactement. Et aux Champs-Élysées.
C'est un signe pour les paris. Ça sera intéressant pour demain et pour dimanche.
Très bien. Il y a aussi un petit groupe de distancés, plus exactement, qui compte 5 minutes 21 de retard. Dans ce groupe, on trouve notamment Bjerg, qui avait fait un énorme travail hier pour son leader Tadej Pogacar et qui, là, aujourd'hui, a été distancé rapidement dans cette étape. Il est accompagné de Van Kersbulk.
J'allais te demander le nom des...
Van Kersbulk.
On peut l'appeler VKB, si tu veux.
C'est pas mal, pas mal. Il y a aussi Zeitz, ça je l'ai bien dit, c'est plus facile.
Ouais, très bien. Et malheureusement, il y a aussi Jack Bauer qui est à 1 minute 15 depuis sa chute et qui n'arrive pas à rentrer pour le moment. Et petite inquiétude, j'aperçois Romain Bardet tout au fond de la classe en compagnie de Brandon McNulty, de Pierre-Luc Périchon et de... Non,
McNulty, il est dans le peloton, il est dans les 10 premiers du peloton. Ça doit être un problème de transpondeur. Alors, je viens de le voir juste à côté de Pogacar.
Ça veut dire que du côté des vélos, peut-être il y a eu des petits changements. Effectivement, je le vois plus là à l'instant, ça a changé. Voilà, petit problème de transpondeur, ça m'inquiétait un peu.
Gajcu qui s'accroche pour tenter de revenir sur le groupe de tête, le peloton qui est pointé avec un retard désormais de 15 secondes alors que l'on aborde les premières pentes du col d'Aubisque. Arnaud sur la moto. Arnaud ?
Absolument, les premières pentes du col d'Aubisque, voilà, qui est un col extrêmement long, hein. C'est pas forcément typique des Pyrénées d'avoir des cols aussi longs. C'est un col de 16 km. On va arriver à 1709 mètres d'altitude, 16 km 400 à 7,1% de moyenne. Alors il va pas falloir se fier vraiment à ce qui va se passer, on va dire, dans les 5-6 premiers kilomètres qui sont relativement faciles. Mais ensuite, la montée vers Gourette nous offrira des kilomètres, notamment à 10% de moyenne, 9% de moyenne. Ça risque d'être très très difficile pour les coureurs dont les jambes n'auraient pas forcément déjà récupéré des efforts d'hier.
Très bien, Arnaud. Tiens, Florian qui nous suit également sur le hashtag RMC Live nous dit que la chute du coureur de la formation DSM tout à l'heure a été causée par une voiture Jumbo avec la complicité d'une motopresse, et c'est effectivement derrière que les conséquences se sont produites également pour Jack Bauer lorsque la moto presse. Je crois que c'est d'ailleurs la moto qui accompagne l'un des journalistes de presse écrite, car tous les jours, eh bien, un journaliste de la presse écrite a le droit de faire une étape à moto, et là elle s'est retrouvée un peu coincée et Jack Bauer a heurté
sa moto. Quelque chose à raconter, ce journaliste, dans la presse demain, il aura vu de près.
Il va y voir le poids de Bauer dans le nez aussi. Oui.
Wout van Aert a remporté tout à l'heure le sprint intermédiaire et c'est lui qui emmène actuellement l'échappée du jour. On ne sait pas encore si c'est la bonne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et surtout c'est en train de revenir derrière sous l'impulsion des Cofidis et de Geschke. Il n'y a plus que 10 secondes de retard, 15 km encore de grimpette ici dans le col d'Aubisque.
Tiens, on va écouter Romain Bardet justement. Tu en parlais il y a quelques instants, tu nous donnais des nouvelles un peu inquiétantes, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. C'était un problème de transpondeur. Romain Bardet, donc, qui a pris une journée sans avant-hier, a retrouvé de l'énergie hier et qui a repris 3 places au classement général. Qu'espère-t-il de cette étape du jour, la dernière étape de montagne? On écoute le coureur français.
Pas déçu, conscient du niveau et de mes limites peut-être, mais non, pas déçu, content justement d'avoir été acteur de l'étape hier, même si ça suffisait pas, voilà, c'était bien de rebondir après l'étape d'il y a 2 jours. Résister le plus longtemps possible, être à la plus d'opportunités et voilà, aussi être c'est lucide sur les décisions. Je m'attends à une étape encore explosive, donc il va falloir essayer de s'accrocher, pas lâcher l'affaire, et finalement c'est ce qui va rester d'énergie qui va parler.
Et est-ce qu'il reste encore beaucoup d'énergie dans le moteur de Romain Bardet, Jérôme? On l'a vu hier quand même aller beaucoup mieux qu'avant-hier, chose que ne comprenait pas d'ailleurs Cyril hier soir. Il avait du mal à comprendre comment il avait pu se refaire la cerise en si peu de temps. Mais tant mieux pour Romain, tant mieux pour nous forcément, hein.
Oui, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Je pense pas qu'il reste beaucoup d'essence dans le moteur d'aucun coureur, hein, d'ailleurs. Mais Romain, on sait qu'avec son panache, son envie de bien faire toujours, il va réessayer aujourd'hui, hein, le peu d'essence qui lui reste dans le moteur, il va le remettre sur la route Écoute, aujourd'hui, c'est certain qu'il va essayer quelque chose si les jambes lui permettent, s'il se sent bien. Il a des coéquipiers à l'avant. Si cette échappée part, s'il arrive à suivre le groupe maillot jaune, il tentera quelque chose. Il tentera d'anticiper la grosse bagarre finale. Si sa forme va de mieux en mieux, alors est-ce qu'il était malade mardi? Est-ce qu'il n'avait pas digéré la journée de repos, etc.? On n'avait pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, hier, ça allait mieux. Si ça reste sur ce modèle-là, ça devrait aller encore mieux aujourd'hui. On verra du Romain Bardet à l'avant.
Alors, on se souvient qu'il y a 2 ans, Pogacar avait renversé le Tour de France lors du dernier contre-la-montre dans la planche des belles filles. Est-ce que vous avez souvenir, messieurs, d'une dernière étape de montagne qui voit justement un renversement de situation et un maillot jaune en difficulté et qui change d'épaule? Moi, j'ai pas vraiment ça en tête. Cyril, Jérôme, lève les yeux au ciel en essayant de travailler leur mémoire. Si vous avez une idée d'ailleurs, qui nous écoutez sur RMC, venez nous donner vos souvenirs. Là, on a du mal. Je vous ai mis dans la caillasse, les gars.
On cherche. Désolé, on ouvre toutes les cases là. Mais
qui nous en manque pas mal. C'est
obligatoirement arrivé, mais peut-être qu'il y a de longues années sur le Giro, oui. Froome, il y a 3 ans, qui avait
bien sûr
renversé dans le
avec col, une échappée incroyable.
Oui, d'ailleurs, vraiment incroyable.
Ah tiens, on n'a pas évoqué le cas de Chris Froome, qui malheureusement, est non partant ce matin, victime lui aussi du Covid, hein, Pierre-Yves.
Oui, il y a 3 coureurs qui n'ont pas pris le départ, Damiano Caruso et Emmanuel Erviti. Chris Froome fait partie de ceux-là, donc positif, dommage, on l'avait vu à l'attaque hier, plutôt bien sur ce Tour de France. Malheureusement, le leader de l'équipe Israël Premier Tech a été obligé d'abandonner, et ce qui fait que je ne sais plus combien ils sont 140 peut-être désormais au total présents sur...
Oui, c'est ça, ils étaient 143 au départ, donc 141 coureurs. Je vérifie juste s'ils ont enlevé Fabio Fellini, oui, qui avait abandonné hier, donc 141 coureurs au départ.
140
Non, 143.
143,
ah, 340, ouais, c'est juste. Ouais.
140 coureurs. Alors, c'est vrai que les premiers jours, on avait été quand même assez épargnés par les abandons, par les blessures et les chutes. Dans ce Tour de France, les premiers abandons sont arrivés assez tard. Mais depuis, avec le Covid qui s'est mêlé de la partie, plus la difficulté du Tour, eh bien, on a quand même pas mal d'abandons. 36 garçons qui ne verront pas Paris dans 3 jours désormais pour l'arrivée de ce Tour de France 2022. Avant de faire une pause pour les infos, on va redonner une situation de course à 80 km de l'arrivée, alors que le peloton se trouve dans le col d'Aubisque. Pierre-Yves, le top course.
Avec en tête aujourd'hui 23 hommes, Michael Woods, Izagir, Lutsenko par exemple sont dans ce groupe de tête, mais 20 secondes seulement d'avance sur un groupe de contre avec Simon Geschke, le maillot à poids. On retrouve également Thibaut Pinot dans ce groupe, et puis un petit peu plus loin, pas très loin, à 52 secondes, le groupe maillot jaune de Jonas Vingegaard, accompagné par Pogacar évidemment. 12 km 500 encore à escalader dans ce col d'Aubisque situé à 1709 mètres. Il faudra basculer vers le col de Spandel, ensuite classé en première catégorie, et encore du hors catégorie pour terminer avec Otakam.
Le col d'Aubisque qui va rencontrer les pentes les plus abruptes dans quelques instants maintenant pour les hommes de tête, qui comptent 21 secondes d'avant sur le groupe Geschke. À tout à l'heure sur la route du Tour, il est 14h58 sur RMC.
RMC Intégral Tour.